auditeurs et auditrices du Beau-Canton et d'ailleurs, vous allez entendre les chroniques des WRIP, c'est une production de Radio Sud, avec la collaboration et le partenariat des élèves internes de l'Institut des Arts et Métiers de Pierrard à Virton. Bonne écoute.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, c'est Louis en direct de Pierrard 7e art. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un réalisateur et pas n'importe lequel. Il a réalisé 9 films, reçu 3 Golden Globes, 2 Oscars, une Palme d'Or. Et oui, je vous parle bien sûr de Quentin Tarantino, le réalisateur et scénariste de Pulp Fiction et Django Unchained. Alors, pour commencer, Quentin Tarantino est né en 1963 à Knoxville, dans le Tennessee. Il n'a pas connu son père, il a vécu son enfance avec sa mère et son beau-père dans une banlieue de Los Angeles. Ce qu'il faut savoir sur Tarantino, c'est que c'est un grand fan de cinéma avant d'être réalisateur. Il faisait souvent l'école buissonnière pour aller voir des films au cinéma. Un cinéma à qui il doit beaucoup, car les films qu'il réalisera plus tard sont remplis de références cinématographiques. Il quittera l'école à l'âge de 15 ans, son premier job sera comme projectionniste dans un cinéma porno. Plus tard, il travaillera dans un vidéoclub, c'est là qu'il commencera à écrire ses premiers scénarios, comme celui de Trou Romain, c'est Tueur Né, qu'il vendra avec la frustration de ne pas les avoir réalisés. Et c'est aussi à cette époque que Tarantino a rencontré son ami Roger Avary, avec qui il collaborera sur son deuxième film Pulp Fiction. Plus tard, il rencontrera un de ses acteurs préférés, Harvey Keitel, connu pour son rôle dans Main Street et d'autres films de Martin Scorsese, et c'est grâce à lui que Tarantino réalisera son premier film, Reservoir Dogs. Keitel, emballé par le projet, aidera le jeune réalisateur en produisant le film et en jouant dedans gratuitement. En 1992, Reservoir Dogs voit le jour avec à son casting Tim Roth, Michael Madsen et Harvey Keitel, Steve Buscemi ou encore Quentin Tarantino lui-même. Et ainsi commence la grande aventure Tarantino avec son style, ses acteurs déchaînés, scène de baston, de violence extrême. Le film sera très mal reçu aux États-Unis à cause de sa violence, mais par contre il fera un carton à l'international, même en France, où il aura le droit à une compétition officielle au Festival de Cannes. Et en parlant de Cannes, c'est en 1994 que Tarantino aura le droit à sa première Palme d'Or, avec son deuxième film Pulp Fiction, qui fera un carton aux USA comme à l'international. Bon voilà, on va faire une petite pause musicale. En parlant de Pulp Fiction, on va écouter Girl You Be a Woman Song de Urge Overkill qu'on entend dans Pulp Fiction. Allez hop, c'est parti! You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl, you'll be a woman. Be a woman. Voilà, c'était Girl, You Be a Woman Soon qu'on entend dans Pulp Fiction au moment où Mia Wallace danse avec. Non, elle danse toute seule à ce moment-là, ouais. Et bon, bref. Donc, par la suite. C'était les Oscars la semaine dernière et Parasite a reçu. On a reçu 4, dont meilleur film étranger, meilleur réalisateur et meilleur scénario original. Et le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, en a reçu une bonne dizaine de nominations. Il a reçu que 2 Oscars, celui de meilleur second rôle pour Brad Pitt et meilleur décor. Suite aux accusations contre Harvey Weinstein ces dernières années, Quentin Tarantino va quitter Miramax avec Sony qui réalisera son dernier film, joué par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood. Un film détesté par certains, mais adoré par d'autres, mais il est avant tout une lettre d'amour que Tarantino a écrit à Hollywood, comme Damien Chazelle l'a fait avec La La Land. Once Upon a Time raconte l'histoire d'un acteur de série télé et de sa doublure cascade, jouée par Brad Pitt, qui essaye de se forger une réputation dans un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus. Et puis ça se passe en 1969, au moment du meurtre de Sharon Tate, qu'on voit dans le film, joué par Margot Robbie. Et il faut pas oublier avant tout que c'est un film de Quentin Tarantino. Ça veut dire, ça vous réserve des surprises. Bon, bah, c'est la fin de cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur Tarantino, lisez Tarantino Rétrospective ou Pulp Fiction, tout l'art du film de Quentin Tarantino. Et nous allons nous quitter sur Bring a Little Love In de Los Bravos, qu'on entend aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Allez, bisous.
La zone 51 est une zone militaire secrète au Nevada, renfermant des nouveaux avions à tester. Le tout premier a été le Lockheed U-2, et puis après plein d'autres, jusqu'à maintenant comme le Lockheed SR-71, le MiG-21, le Lockheed Martin F-16 Nighthawk, et plein d'autres. Vous pouvez aussi, grâce à sans doute, trouver des restaurants, des bars et des boutiques souvenirs en rapport avec les aliens. La zone 51 est un rectangle d'approximativement 155 km² dans le comté Lincoln, d'environ 1000 miles ou 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Elle est formée principalement de la vallée Emigrant Valley, bordée par des chaînes de montagnes Groom et Papoose au nord et au sud respectivement, et des collines Jumble Hills à l'est. Entre deux chaînes se trouve le lac Groom, un lit de lac asséché d'environ 5 km de diamètre. Du côté sud-ouest du lac, il y a un aéroport militaire avec des pistes d'atterrissage bétonnées, dont une désaffectée. Se poursuit sur les lits du lac 4 pistes en terre battue sur le lac lui-même. Maintenant, je vais vous parler de la question que tout le monde se pose sur les zones 51. Y a-t-il vraiment des aliens à l'intérieur ? Ce doute a été posé à cause que les soldats de la zone 51 ont ramassé une soucoupe volante et tout son équipage alien lors du crash de celle-ci à Roswell en 1947. Il y a beaucoup d'images dessus. Grâce à ce mythe, il y a eu aussi l'assaut de la zone 51 organisé par Matty Robert, qui voulait faire une blague qui était prise au sérieux sur Facebook. Mais ça a été annulé à cause que les gardes ont eu l'ordre de tirer sur tout ce qui passait. C'est un mythe assez extraordinaire car il a entraîné plusieurs personnes avec lui, tellement qu'ils y étaient plus de 2 millions à y être et beaucoup d'autres à vouloir y être. Sera-t-il peut-être un jour découvert ? Personne ne le sait, affaire à suivre. Maintenant, je vais vous faire une petite coupure musicale avec V-Stone, Nevada.
Before you go and walk away, yeah, you better know where you're going.
des choses qui sont vraies et d'autres qui sont fausses, que nous verrons ça juste après. D'abord, les vraies. La vérité est que c'est une base située au Nevada. Elle est interdite aux civils car elle est censée être secrète. Dedans, ils font tester des nouveaux avions. Mais les choses fausses maintenant. Ce que je vais vous dire ne sont que des hypothèses. On dit qu'elle renferme des aliens avec leur soucoupe et que grâce à ça, ils en font d'autres. Ils font des opérations sur les aliens, mais en ont des autres vivants. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je m'y intéresse. Je m'y intéresse car c'est une grande histoire et un grand doute dont j'ai toujours voulu faire des recherches et partager avec tout le monde. Faire ma première émission et apprendre tous les montages radio. Je m'y intéresse aussi pour m'occuper, me détacher un peu de l'école, même si c'est à l'internat. Pour le stress aussi, et aussi car j'aime bien les théories dessus, les théories qu'il y en a aussi en Russie, mais surtout les choses paranormales. Maintenant, je vais vous dire les sources. Première source, Wikipédia, la zone 51. Deuxième source, Wikipédia, l'affaire Roswell. Et la troisième, RTL, reportage de Paul Turban.
Never fall upon our heads. Blessed is Berlin. Gesegnet ist Berlin. A great European city. The city of Bertolt Brecht. Max Ernst, Marlene Dietrich, Wim and Donato Wenders, Blixer, Marke. Ha! Ha! Conny Black.
bien, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et chères auditrices. C'est Louis, en direct de Pierrard, des web reporters. Et je suis en compagnie de Loïs. Bonjour Loïs.
Bonjour Louis.
Et de Jim, un étudiant à Pierrard. Bon, il va vous expliquer vous-même. Alors, Jim, je veux que tu te présentes et que tu nous expliques ce que tu fais comme étude et c'est quoi ta passion.
Bonjour, Jim Jonah, j'ai 18 ans. J'étudie à Pierrard en soudure depuis ma cinquième année. Passion, c'est la moto.
Est-ce que tu peux nous parler du concours auquel tu as participé l'année dernière ?
Oui, bien sûr. J'ai été appelé un jour que j'étais en sciences. On m'a dit, il faut vite que tu ailles en atelier, ce que j'ai fait. Là, à ce moment-là, j'ai rencontré une personne, Quentin Pouleur, qui, lui et mon professeur, avaient pris l'initiative de directement m'inscrire au concours. Car mon professeur a dit qu'il y a un petit jeune qui se débrouillait pas trop mal en soudure, que ce serait bien qu'il participe à ça. Ce qui s'est passé, ce petit souci, c'est que j'ai eu 4 jours de préparation. Or, les autres avaient déjà eu un petit mois. Du coup, beaucoup de choses que je découvrais, des personnes, des procédés, des soudures. Et on y a été un peu au talent, quoi.
Et elle s'est passée où, l'épreuve ?
Il y a eu d'abord les présélections qui étaient à Charleroi. C'est-à-dire, par exemple, sur une centaine, ils reprenaient les 6 premiers. J'ai fini 3e, là. Et de la présélection, ils faisaient un championnat de Belgique avec les 6 premiers. Et de là... Les 3 premiers étaient retenus et j'ai terminé premier.
Jim, vous dites que c'est votre professeur qui vous a inscrit à ce concours. Et vos parents, ils ont dit quoi ?
Ils n'y voyaient aucun inconvénient. Au contraire, que du bon pour l'avenir. Et quand bien même, j'avais tout à gagner et rien à perdre.
Donc, expliquez-nous un peu ce que vous avez dû faire comme épreuve.
Au championnat de Belgique, on avait 12 pièces différentes à faire, avec 3 procédés et des matériaux différents. En un temps limité, très limité même. Et voilà, grosso modo, c'est ce qu'on devait faire.
Et vous aviez combien de temps pour...
De tête, je pense, c'était 10 heures, je pense.
10 heures sur une journée ?
Ça se faisait sur deux journées parce que c'était quand même intensif et physique, donc voilà.
Donc Jim, vous nous dites qu'il y avait 100 personnes au qualif. Mais les qualifs, c'est les qualifications pour aller à la Coupe d'Europe, enfin de monde. Du monde ou c'est la ou c'est se qualifier pour la Coupe de Belgique?
Non, c'est les qualifs, ils reprennent les 6 premiers et avec ces 6 premiers là, ils refont un championnat de Belgique et de là le premier part au mondial.
Et dans ces 6 premiers, vous étiez combienième?
J'ai fini 3e.
3e.
Bien Jim, maintenant on va aborder le sujet qui me dérange un peu. Vous êtes arrivé premier au championnat de soudure de Belgique.
Oui.
Je voudrais que vous expliquiez à nos chers auditeurs pourquoi vous n'êtes pas allé au championnat du monde en Russie.
C'est avéré qu'après, on a eu 3 jours de formation à Gosly, comme ça, qui était offert. Sauf que là, il s'est avéré qu'il restait plus qu'un jury au lieu de 10 qui jugeait, que cette personne était flamande. Allez savoir pourquoi, ils ont choisi le deuxième, qui lui était également flamand, et qui est parti au championnat du monde.
Et vous, Jim, si... S'il ne serait pas changé, si ça aurait été vous qui seriez parti, est-ce que vous seriez parti ou pas ?
Bien sûr. On n'a pas de chance comme ça dans notre vie.
Et vous vous êtes par rapport à la direction ou quelque chose comme ça pour garder quand même votre place et partir là-bas ?
Bien sûr, oui. J'ai écrit des lettres et tout ça. Et on a eu beau me raconter beaucoup d'histoires, mais pour pas grand-chose de toute façon.
Jim, on va revenir à votre première passion. Vous faites de la moto, c'est ça ?
Oui,
bien
sûr.
Du super motard.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, j'ai commencé maintenant, ça fait 3 ans. Première année, grande découverte, vu que c'est une discipline un peu à part, avec de l'asphalte et de la terre, qui est très difficile. J'ai fini vice-champion, malheureusement, à cause de ma non-participation à la première course. Ensuite de là, j'ai dû monter de catégorie, où j'ai investi dans une nouvelle machine que j'ai montée, réglée. Là, j'ai fini 3e du championnat de Belgique, où j'ai dû encore également monter de catégorie. Et on en arrive à cette année où la première course se déroulera seulement ce week-end, donc on verra.
Et ça fait 3 ans que vous roulez en super motard, enfin, peut-être dans les compétitions et tout ça, mais depuis quel âge, enfin, depuis combien de temps faites-vous de la moto ? Depuis le plus loin que ça remonte.
À part des courses ?
Oui, à part des courses.
Oh, j'ai dû commencer à 6 ans, un truc comme ça.
Et vous faisiez déjà des petites compétitions à cet âge-là ?
Non, j'ai seulement commencé ma première compétition à 16 ans, oui.
Et ça fait quoi au début de se retrouver sur une moto, devant, à côté d'un tas d'autres motos, et puis n'avoir jamais encore fait ça?
Ah, c'est sûr que mon premier départ, j'étais pas trop à l'aise.
Et qu'est-ce qui vous a lancé?
Ça a été un garage moto tout près de chez moi, qui a mis à ma disposition une moto pour faire une première saison, en 85 plus précisément. Et c'est de là qu'est partie, grâce à cette personne-là.
Elle se situait où, la toute première course que vous avez faite?
C'était à Francorchamps, circuit de karting de Francorchamps. Ouais.
Et vous êtes arrivé?
J'ai fini 3e.
Donc c'est un beau départ pour vous?
C'était pas mal, oui, vu le niveau.
Et est-ce qu'il y a 3 ans, vous seriez imaginé vice-champion de Belgique? Enfin, au stade où vous en êtes aujourd'hui?
Ah non, loin de là, loin de là. Moi, c'est pas à la base par pure passion maintenant. Après, si je fais des bons résultats, c'est très bien pour moi.
Et la course de ce week-end, vous allez la passer où?
À Mette.
Ce sera sur quel modèle de moto?
En supermotard également, en catégorie euro-nationaux.
Alors, Jim, est-ce que ça vous dirait qu'après la course de ce week-end, vous reveniez faire une interview pour nous parler déjà de votre résultat et puis de comment ça s'est passé,
de votre l'organisation sensation.
Vous voyez ce que je veux dire, quoi?
Oui, ouais, bien sûr, moi, il n'y a pas de souci, je suis disponible.
Vous nous parliez tout à l'heure aussi que vous faisiez de la vitesse pure.
Oui, tout à fait, ça a commencé il y a 2 ans maintenant, avec une moto qu'on avait montée avec mon père. À la base, il ne voulait pas que
vous l'utilisiez.
Oui, que je l'utilise et que je cours du moins en course avec. Parce que c'est souvent sur des circuits routiers et qui sont très dangereux et lui-même en a déjà subi les conséquences. Pour finir, ils ont accepté, mes parents. J'ai fait cette première course que j'ai gagnée correctement. Ensuite, après ça, l'année d'après, je me suis acheté ma propre moto que j'ai montée moi-même. J'ai participé au championnat de Belgique. Il y avait 8 courses où j'ai tout gagné, à part une où j'ai fait 2e à cause d'une chute. Et j'ai fini champion en 125. Je roulais également pour le compte d'un Anglais, pour qui mon père roulait il y a une dizaine d'années de ça. Et où j'ai également fini champion en catégorie 350 cm3.
Et en parlant de votre père, est-ce que lui aussi, il faisait de la moto?
Oui, oui, il a fait exactement les mêmes courses que moi. Il a également fini 11 fois champion de Belgique. Et voilà, à peu près son palmarès.
Oui, donc c'est de famille, on peut dire.
Il y en a un peu dans les gènes, oui.
Avec quel type de moto vous roulez en vitesse pure?
Bah, c'est des vraies motos de Grand Prix, comme le MotoGP, mais...
De route, quoi.
Oui, pour la route, mais des vraies motos d'usine, quoi.
Et vous faites... À part le super motard et la vitesse pure, et puis même la soudure, est-ce que vous faites encore d'autres championnats ou d'autres...
Je fais pas un championnat, mais je roule 6-7 courses par an de motocross pour mon entraînement personnel, physique, même pour la terre, pour le super motard.
Jim qui a déjà gagné, comme on le rappelle, une paire de prix, une paire de concours. Bon, bah, c'était les web reporters de Pierrard, en collaboration avec Radio Sud. À la prochaine.
Merci Jim.
De rien, de rien.
Battered and torn, I can see the light. Tattered and worn, I must kneel to fight. Friend of mine, what can't you spare? I know sometimes it gets cold in there. When my legs no longer carry, and the warm wind chills my bones, I reach for Mother Mary, and I shall not walk alone. Is alive. Well, we're apart. Only tears speak from my heart. Break the chains that hold us down, and we shall be forever bound. left behind. How shall we tomorrow find set aside our wedding sin, so that we can live again? When my legs no longer carry, I'm the warm wind chills my bones.
Et chère auditrice, c'est Ryan et on se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Chariot. Bonjour Monsieur Chariot.
Bonjour Ryan.
Vous êtes éducateur à Pierrard.
Je suis stagiaire éducateur.
Oui, stagiaire éducateur. Parlez-nous un peu de vous.
Je vais avoir 23 ans ici à la fin du mois. J'ai fait d'autres choix d'études qui n'ont pas été fructueux et finalement j'en suis même bien content parce que j'ai trouvé ma voie, si je peux dire comme ça, dans le métier d'éducateur, donc surtout dans le social et l'éducation. Ici, à Pierrard, j'ai pu me rendre compte encore plus que c'est ce que je voulais faire plus tard. Surtout à l'internat, j'aime beaucoup le contact avec les jeunes,
oui,
de tous les âges. Mais je suis particulièrement... Je préfère le contact avec les adolescents plutôt que des plus jeunes, c'est ça que je veux dire.
Ok. Pourquoi avez-vous choisi Pierrard comme école ?
J'ai grandi ici dans la région quand j'étais plus petit avec mon papa. J'habitais Girouville. Il est un ami de Monsieur Grard. C'est pour ça que je suis venu vers ici tout d'abord. Je cherchais aussi un stage en internat parce que je me doutais que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et ici, j'ai la chance donc de pouvoir faire le stage à l'internat, mais aussi... en externat à l'école la journée. Donc je vois un peu les deux,
oui,
les deux formes que peut avoir le métier d'éducateur à l'école et à l'internat.
Ok. Vous vous plaisez bien à Pierrard ?
Très bien. Je suis d'ailleurs un peu triste que ce soit déjà la fin de mon stage, même si c'est assez éprouvant au niveau des horaires, vu que je fais des doubles horaires, donc la journée à l'école et le soir à l'internat. Mais en tout cas, vous allez beaucoup me manquer, tous les jeunes, et ça c'est sûr.
Ouais, je pense que certains élèves aussi vont trouver que vous le manquez. Car beaucoup d'élèves nous parlent de vous.
Ah, mais ça me fait vraiment plaisir.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils disent ?
Bah, ils disent du bien, quoi.
Tant
que vous êtes bien.
Et,
voilà,
vous êtes tous super aussi.
Ouais, merci. Monsieur Chariot, quels sont vos hobbies ?
Alors, tout d'abord, si je peux dire un hobby, c'est le sport en général. J'aime beaucoup que ce soit aller courir ou même pratiquer des activités sportives diverses. Mes sports favoris actuellement sont le foot et le mini-foot. J'ai pratiqué sinon aussi une quinzaine d'années de basket et j'ai fait une dizaine d'années de tennis. Donc j'ai vu pas mal de sports et au final... Depuis 4 ans, je fais du mini-foot et c'est ma première année de foot sur Prairie.
Et vous jouez dans quel club de foot ?
Je joue dans la province de Liège, à Marchin, dans un club... c'est un village, donc c'est pas un très grand club, mais pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Je suis bien encadré. Je coach aussi depuis cette année des jeunes U8. C'est mieux pour moi parce que c'est du 5 contre 5 et j'ai l'habitude, grâce au mini-foot, du 5 contre 5. Donc voilà, c'est ma première année, j'apprends et je pense que c'est bien avec le métier d'éducateur de faire ça en plus, s'occuper des jeunes le week-end et ainsi que la semaine aux entraînements.
Oui. Ok. Monsieur Jurio, pourquoi n'avez-vous pas fait footballeur comme métier ?
Parce que j'ai rencontré le foot trop tard, on va dire. Sinon, ça m'aurait vraiment bien plu. Et plus jeune, mes parents m'ont plus dirigé vers d'autres sports que le foot. Pour diverses raisons que je trouve d'ailleurs dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Je suis quand même très content de pouvoir en faire maintenant, et même si je joue pas très haut niveau, je vois toujours ça comme un challenge. Je veux progresser, même si je suis déjà assez âgé, on va dire, pour apprendre à jouer au foot. Donc voilà, si j'avais pu, j'aurais bien aimé, j'aurais tout fait pour faire une belle carrière, mais c'est un peu trop tard de toute façon maintenant.
Ouais. Vous comptez faire quoi plus tard, après votre immersion à Pierrard ?
Donc là, je dois finir mon année. Elle se finit le 31 mars. Normalement, j'ai réussi tous mes cours. Je le sais déjà, parce que je n'ai raté aucune évaluation. Donc là, il me reste deux petites années d'études, et après ça, je me vois bien travailler dans un internat du même style que l'internat ici Pierrard. Ce serait ce que je préférerais faire, on va dire.
Si vous pourriez revenir à Pierrard, vous le feriez ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. J'aimerais que ce soit même pour vous revoir de petites soirées ou passer quelques jours avec vous. Je verrai d'ailleurs si c'est possible. Et oui, j'aime beaucoup cette école. Si je pouvais travailler ici ou alors dans vraiment le même type d'internat plus tard, ça me ferait vraiment plaisir. C'est ce que je chercherai en tout cas faire une fois que j'ai fini ici mes études.
Ok.
Donc voilà, moi je suis très, très content du séjour que j'ai passé ici. J'ai passé 11 jours avec vous. C'est pas énorme, après c'est très intense. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris de l'expérience en une dizaine de jours. Je crois avoir pris beaucoup, beaucoup d'expérience ici. Et il n'y a rien à dire d'autre que les stages comme ça sur le terrain, quand on est bien encadré avec une bonne équipe éducative autour de nous, c'est là qu'on apprend vraiment le plus sur le métier d'éducateur.
Oui, bien sûr. Une dernière question, monsieur Chariot. Comment faites-vous pour rester zen quand les élèves vous insultent ou...
C'est justement ce qu'un éducateur doit apprendre à faire, c'est à réagir correctement dans toutes sortes de situations. Un de mes professeurs m'a dit qu'un éducateur devait être un petit en tout. Donc je veux dire par là qu'un éducateur doit être un petit professeur, il doit être un petit psychologue, il doit pouvoir avoir beaucoup de cordes à son arc, si je puis dire comme ça. Et il faut surtout rester calme, penser à soi-même, d'abord ne pas se mettre en tort, parce qu'il faut bien savoir qu'on travaille ici avec des jeunes, donc la violence entre un adulte et un jeune ne sera jamais permise, quoi qu'il se soit passé avant. Je pense qu'il faut gagner le respect des jeunes sans crier, il n'y a pas toujours besoin de crier, il faut parler. Essayez d'abord, quand il y a un problème, d'apaiser les tensions. Et puis assez rapidement, ou même s'il faut un peu plus de temps, il faut parler avec la personne avec tact et essayer de régler ce problème sans qu'il y ait de conséquences, ni de suite ou de vengeance. Surtout, ce que je pense, c'est qu'un éducateur doit pouvoir faire la part des choses. Je veux dire par là que quand un jeune fait quelque chose qui nous déplaît, il ne faut pas le prendre en grippe et pas garder cette image de lui, parce qu'il n'y a pas qu'une image chez un jeune, justement, il y en a des milliers qui peuvent être montrés. Et c'est assez dommage de rester braqué des fois sur une idée, alors que tout le monde a des qualités, il faut juste apprendre à les découvrir.
Oui,
Après, c'est clair que certains ont besoin d'encadrement pour être un peu plus droit, on va dire, un peu plus juste certaines fois, et surtout pas embêter les autres pour un rien.
Quel élément vous semble le plus important quand vous enseignez ou accompagnez quelqu'un ?
La patience. Si je peux dire un mot, c'est vraiment ça. Il faut de la patience. Il faut rester zen et ne pas perdre ses valeurs. Il faut garder ses valeurs et essayer de les transmettre.
Si vous pouvez faire un petit résumé d'être éducateur, enfin...
De mon stage à Pirard.
Oui, de votre stage à Pirard.
Donc je suis arrivé ici tout d'abord la première fois pour parler avec monsieur le directeur. J'ai pu découvrir un type d'école et une infrastructure à laquelle je ne m'attendais pas. Je trouve que c'est vraiment un beau lieu. Quand la première fois que je suis arrivé ici, j'avais l'impression d'être sur un petit campus américain d'université. En plus, je suis venu m'entretenir avec monsieur Crisifi pendant les fêtes de Noël. Donc il y avait des chants de Noël dans tout le site. Et là, je le savais en arrivant que, rien qu'en voyant ça, je savais que je passerai un très bon séjour ici, que j'apprendrai beaucoup de choses et que je serai très bien encadré.
Ok, merci monsieur Chariot de nous avoir accompagnés et d'avoir accepté notre interview.
Avec plaisir, monsieur.
C'est bien, merci.
À bientôt, merci.
Au revoir, chers auditeurs et chères auditrices. C'était Ryan et monsieur Chariot.
À bientôt, au revoir. À une prochaine, je l'espère. Merci.
Vous venez d'entendre les chroniques des WRIP, les web reporters de l'internat de Pierrard. Vous pouvez réécouter cette chronique via le site de radiosud.be ou alors sur le site de l'Institut des arts et métiers à Virton, www.pierrard.eu, rubrique internat. Au revoir et merci.